voix nue. À l'occasion de la remise à Cannes du prix France Culture Cinéma Consécration 2016 à Frédéric Wiseman pour l'ensemble de son œuvre, nous réécoutons ses entretiens avec Charlotte Garçon enregistrés en 2006. Ce soir, je suis l'homme à la perche.
Fred Wiseman, depuis un jour de 1966 où vous avez décidé en guide de travaux pratiques d'emmener vos étudiants de droit dans une prison psychiatrique pour voir ce qui s'y passait, vous n'avez pas cessé de tourner, de filmer l'Amérique. Dans chacun de vos 35 longs métrages documentaires, presque un par an donc, vous avez porté un regard précis, aigu, intense sur à chaque fois un seul lieu, en y passant plusieurs semaines et en y tournant des dizaines et des dizaines d'heures. Alors, d'où vous vient ce besoin d'y aller voir ?
Je ne sais pas si je peux vraiment répondre, vous donner les vraies raisons, sauf que j'ai enseigné dans une faculté de droit et je l'ai détesté, comme j'ai détesté l'école de droit. Et le cinéma m'a toujours intéressé et j'ai eu mon 30e anniversaire et j'ai pensé il faut que je fasse quelque chose que j'aime au lieu de quelque chose que je déteste. Et comme ça, j'ai quitté comme professeur de droit et j'ai commencé une nouvelle carrière, soi-disant, comme documentariste. Le premier film que j'ai tourné, c'était un film Bridgewater State. C'est une prison pour les jeunes qui étaient criminels et fous. Et quand j'étais professeur, j'ai amené mes étudiants là-bas pour les donner une idée qu'est-ce qui se passe dans les endroits comme ça, s'ils n'étaient pas des bons avocats et fait un bon travail pour leurs clients. Et comme ça, j'ai déjà rencontré le chef de prison, et il était d'accord pour le tournage, mais c'était plus compliqué que ça. Mais après un an et demi, j'ai reçu la permission pour le tournage. Et j'ai tourné le film en 66, mais j'ai commencé à demander la permission 18 mois avant. Et quand j'ai eu la permission, j'ai commencé à tourner, parce que c'était un endroit qui m'a beaucoup impressionné la première fois que je l'ai vu. Et j'ai pensé que ça peut être un bon sujet pour un film documentaire. Et aussi, c'était sûrement 6 ou 7 ans après qu'il y avait les gens ont découvert la possibilité de tourner en 16 mm et où le son et l'image sont en synchro. Et comme ça, depuis cette date, on peut tourner partout quand il y a assez de lumière. Et on peut tourner un film n'importe quel sujet. Et mon idée, c'est qu'il y a tant de bons sujets qui sont intéressants, tristes, comiques, dramatiques, tragiques dans la vie quotidienne, que je peux utiliser cette technologie pour les films la vie quotidienne des gens.
Dans vos films, dans vos documentaires, Fred Wiseman, on a l'impression que le langage est quelque chose qui structure tous ces rapports, que ce soit un langage utilisé pour opprimer, pour des raisons de pouvoir, ou que ce soit un langage de la négociation, du marchandage permanent. Je pense à Welfare, votre film de 1975, dans un centre de sécurité sociale, où tout est possible malgré la bureaucratie et tout se négocie si on est assez convaincant.
Oui, mais je crois que ça, ce n'est pas unique au centre de sécurité sociale. Et je crois quand il y a des règlements qui sont écrits, il y a toujours des questions d'interprétation. Et nous tous, dans beaucoup de nos affaires, faisons des négociations. Ce n'est pas unique aux institutions. Et ça passe dans la famille, entre les couples aussi. Mais le langage, la façon que les gens parlent, les mots qu'ils choisissent, les métaphores, et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je fais beaucoup d'attention de langage et aussi d'image. Et c'est un peu lié au sujet. Par exemple, avec Zoo, un film que j'ai tourné dans le zoo de Miami quelques années, au moins 50% des participants ne parlent pas très bien l'anglais. Mais dans un autre sens, le film que je viens de tourner à l'Assemblée générale de l'État d'Idaho, le Parlement d'Idaho en Amérique, c'est très dépendant sur le langage, parce que j'ai fait le découvert que les politiciens aiment parler et il n'y a pas beaucoup d'action dans le sens de mouvement et le film est très lié aux mots. Zoo est d'un côté et State Legislature à l'autre côté, mais c'est tout à fait lié au sujet. L'importance de mots dans un film, c'est tout à fait lié au sujet.
Vous n'êtes pas en train de dire que vous filmez les parlementaires comme des animaux en cage?
Non, certainement pas. Non, actuellement, je ne blague pas. Même si je n'étais pas d'accord avec leur politique à Idaho, j'ai eu beaucoup de respect pour ces gens parce qu'ils participent dans le procès démocratique. Ils ont fait des études et ils ont pris le travail sérieusement. Le film n'est pas une parodie de le travail de tout. Et même, comme j'ai dit, je n'étais pas d'accord avec le résultat, mais tout ce qu'on peut veut, c'est que les gens prennent le travail sérieusement dans les conditions qui suivent le procès démocratique. Et moi, j'étais très impressionné avec ça. Parce qu'en général, je ne participe pas. J'ai naturellement mes idées politiques, mais je ne suis pas actif dans un parti politique et tout ça. Et l'Assemblée générale d'un État en Amérique, comme partout, je suppose, leur action, leur décision touche tous les aspects de notre vie. Le bâtiment où nous habitons, les restaurants, nos contrats, les conditions de l'hôpital, les écoles, les polices, etc. L'Assemblée générale, c'est l'institution qui prend les décisions et donne l'argent pour toutes les autres institutions de la société.
Fred Wiseman, on parle de documentaire, on pense bien sûr à un univers visuel, mais vous avez une particularité, c'est que vous êtes avant tout preneur de son, c'est-à-dire que vous vous êtes guidé par votre oreille sur un tournage.
Oui, mais le son et l'image sont également importants et moi je fais le son parce que ça me donne plus de liberté en choisissant qu'est-ce qu'on doit tourner, particulièrement pendant le montage. Je fais beaucoup d'attention aux choses qui sont dites, parce que dans le montage, quand on fait le montage d'image et le son, c'est une sorte d'écriture. Et comme un écrivain doit faire attention à les mots qu'il choisit pour ses personnages, moi, je n'invente pas les mots des personnages, mais je les sélectionnais.
Ce qui veut dire, Fred Wiseman, que vous vous refusez à ajouter une voix par-dessus les images après coup?
Non, il n'y a aucune narration dans mes films. J'essaie de faire le montage dans une façon que tout ce qu'on voit s'explique. Ça, c'est très important pour moi, parce que si le film est une réussite, c'est une réussite parce que le public, les spectateurs, peut entrer dans les événements et il y a assez d'enseignements dans la conversation entre les gens que quelqu'un qui n'était pas, par exemple, à le Bureau de Sécurité sociale peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans le même sens que quand un écrivain écrit une scène pour un roman, il doit nous donner assez de renseignements pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ai fait le même travail dans le montage, sauf que je ne invente pas. Ce n'est pas mon imagination qui invente les mots. Je les sélectionnais pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que mon travail pendant le montage, c'est que il faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a devant mes yeux et mes oreilles. Et comme ça, si ce travail est une réussite, je peux passer cet renseignement au spectateur, dans la façon que je monte le film.
Alors avant cette étape décisive du montage, dont on parlera, Fred Wiseman, vous décrivez souvent le tournage d'un documentaire comme un sport assez intensif. Alors en pratique, comment ça se passe quand vous arrivez sur un lieu ?
Oui, pour le tournage, l'équipe, c'est 3 personnes. Moi, je dirige l'opérateur et je fais le son. Et le troisième change les bobines parce qu'on tourne un film et il faut changer les bobines chaque 11 minutes. Toute l'équipe est à portée, la caméra sur l'épaule, le magnétoscope aussi sur l'épaule. Et comme ça, on est toujours prêt de suivre les événements. Maintenant, j'ai l'habitude de prendre des décisions très vite, parce que si on manque le premier 60 secondes d'événement, peut-être on manque l'explication. Et on va prendre la décision tout de suite de tourner, et on va la faire. Et la chose la plus mauvaise qu'on peut faire, c'est de comment on s'arrête. Là, quand je commence de tourner une séquence, je continue jusqu'à la fin. Si j'arrête, j'arrête. Parce que la seule règle dans cette forme de tournage, c'est que si vous pensez que vous pouvez devenir quand les gens vont dire quelque chose d'intéressant ou quand les choses ne sont pas intéressantes, c'est sûr, l'instant que vous arrêtez, en pensant que rien ne va passer, ça c'est l'instant où la meilleure chose va passer.
Ça vous est souvent arrivé
oui,
au début?
Oui, naturellement. Naturellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs.
Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu les repérages? Est-ce qu'il y a des repérages dans vos films? Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans les lieux avant de tourner?
Non, sauf à la Comédie Française. En général, sauf le film de la Comédie Française, et je vous explique pourquoi dans un instant. Pour les autres films, je passe qu'une ou deux jours avant le tournage. Parce que comme je ne demande jamais aux gens de faire quelque chose pour moi, je ne veux pas être là en regardant et manque un événement. Si je ne suis pas là, je n'ai aucune idée, c'est ce que j'ai manqué. Pour moi, le tournage, c'est le repérage. Et c'est pour ça que je tourne beaucoup. En général, c'est plus que 100 heures. C'était différent pour la Comédie Française parce que c'était nécessaire d'avoir l'accord de tous les syndicats. Et à cette époque, je crois qu'il y avait 23 syndicats et j'ai passé 3 mois à la Comédie Française en rencontrant les gens. Et après 3 mois, ils ont voté de me donner permission de tourner là-bas. Mais c'était très gentil. Pour tous les autres films, je ne passe qu'une ou deux jours avant.
Et est-ce que vous avez un système de code avec votre opérateur, puisque vous êtes à la perche?
Oui, nous avons des signes entre nous qui probablement sont assez comiques si quelqu'un nous regarde, mais pour les prises différentes. Et je lui amène avec le micro.
Est-ce que, Fred Wiseman, il est difficile de convaincre des gens qui sont filmés d'être filmés?
Non. Et si ce n'est pas une bonne idée de les convaincre, s'il le veut et il accepte l'idée de tournage, c'est très bien. Mais s'ils ont des doutes, je n'essaie pas de les convaincre. Dans mon expérience en France et particulièrement en Amérique, 99% des gens acceptent l'idée d'être filmés. Et ce n'est pas un problème que les gens disent non. Et je l'ai dit, s'il y a une possibilité en avant, j'essaie toujours de trouver le accord avant le tournage. Mais s'il n'y a pas de temps, je tourne et s'il dit non après, je ne l'utilise pas. Mais je ne monte pas le film aux gens. Après, et un an après, quand le montage est terminé, je ne demande pas la permission à cette époque. S'il dit oui, je tourne. Si je tourne et il change leur avis, je ne l'utilise pas. S'il dit non tout de suite après le tournage, je ne l'utilise pas. J'essaie d'avoir l'accord, la permission de tous les gens qui sont filmés.
Et est-ce que vous... Vous savez que l'expression « une mouche sur un mur », cette expression en anglais du documentaire qui est maintenant un peu mise à toutes les sauces, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'invisibilité de la caméra?
Oui, moi je n'aime pas cette expression parce que je crois que c'est un peu condescendant. On n'est pas une mouche parce qu'une mouche transmet les maladies. Souvent, une mouche peut être dans une chambre et on ne voit pas, mais on voit toujours mon équipe. Pour les raisons que je ne comprends pas tout à fait, les gens acceptent d'être tournés, filmés, et ils ne changent pas leur comportement. Parce que ça, c'est mon... Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je crois que d'être un peu prétentieux, peut-être très prétentieux, le principe Heisenberg n'applique pas dans mon expérience à mon tournage documentaire. Parce que si les gens acceptent l'idée d'être filmés, ils continuent de faire tout ce qu'ils veulent. Nous tous, nous ne sommes pas assez bons comédiens de changer complètement la façon que nous nous comportons parce que nous sommes tournés. Parce que si nous avons eu cette capacité, le niveau de comédien des gens qui jouent au cinéma, au théâtre, serait beaucoup plus haut parce qu'il y a plus grand choix. Dans mon expérience, si les gens acceptent l'idée d'être filmés, ils continuent de faire tout ce qu'ils veulent faire. L'exemple le plus extrême pour moi, c'est quand j'ai tourné un film avec les polices à Kansas City en 68. Il y avait un policier qui a arrêté une jeune femme. Elle était accusée d'être une prostituée. Pour faire,
l'arrestation.
Oui, arrestation. Et c'est presque nécessaire qu'il va dans le lit avec elle. Et à la dernière instant, soi-disant, il a dit, moi je suis policier. Et ils ont quitté la chambre, ils ont descendu les escaliers. Elle a échappé, elle est allée se cacher dans la cave de l'hôtel. Et les polices ont trouvé là-bas, et une des gendarmes a commencé de l'étrangler devant la caméra. Et après 30 secondes, il a dit, il a la laisse tomber, et elle a dit, vous avez essayé de me étrangler. Et il a dit, non, vous imaginez ça. Il a fait ça parce que la dame a attaqué l'autre policier. Et il a pensé, ça c'est la façon qu'on doit traiter une femme qui est une prostituée. Il ne veut pas le tuer, il ne tue pas si je n'étais pas là, mais il a pensé, elle doit comprendre le système, qu'elle ne joue pas avec les officiers. Et je crois que ça c'est un exemple extrême de tout ce des choses qui passent toujours, quotidiennement, dans le sens que nous tous pensons que nos gestes, nos actions sont bonnes. Mais ils ne sont, pour les autres, les gens qui nous regardent, ils ont peut-être des avis et des opinions différentes. C'est très bien pour le documentariste. Et aussi, on ne peut pas oublier le rôle de narcissisme. Parce que beaucoup de gens aiment d'être filmés. Et ils sont très contents que quelqu'un est assez intéressé pour les filmer.
Fred Wiseman, vous donniez l'exemple de Law and Order, votre film de 1968 où ce policier étrangle à moitié la prostituée. Il y a une autre scène dans ce film où le chef des policiers avec qui vous patrouillez leur fait une petite leçon et leur dit, écoutez, il ne faut pas appeler les gens comme vous les appelez parce qu'ils s'en offensent. Alors, est-ce que ça, ce ne serait pas quand même une petite scène à destination édifiante de la caméra pour se dire que finalement, on est des bons policiers?
Non, je ne crois pas, parce que l'expérience avec la police, c'est comme dans tous les autres films, c'est toujours contre des clichés, contre des banalités. Parce que même si on voit les polices étrangler une prostituée dans le film, on voit aussi les gendarmes, les policiers faire des choses très bonnes. où ils aident les gens. Moi, j'ai tourné cette film en 68, tout de suite après la convention démocratique à Chicago et tous les polices, il y avait une mêlée dans les rues de Chicago et tout ça. Mais, et j'ai pensé, comme tout le monde qui n'a pas eu beaucoup d'expérience avec la police, mon expérience principale avec la police, c'est parce que je conduis la voiture trop vite. Mais après 20 secondes dans une voiture de police, on voit pourquoi les polices sont nécessaires. Parce qu'on voit les choses que les gens font aux autres qui demandent la présence de police, la violence qui existe partout. Et je n'excuse pas la violence de police quand ça existe, mais ça appartient de la violence humaine, ce n'est pas unique aux polices. Et aussi, j'ai vu les polices en faisant des choses qui aident les gens, qui donnent un bénéfice et tout ça. Et je crois que le film que j'ai monté, c'est une réflexion de tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans tous mes films. Je ne prends pas une position idéologique envers le sujet. Parce que si je prends cette position idéologique, je deviens un peu aveugle. Parce que il faut que j'exclue beaucoup de choses qui sont devant mes yeux. Et l'effort est toujours, je ne dis pas que c'est une réussite, mais l'effort toujours, c'est de, que le film, c'est une sorte de réflexion de les choses que j'ai trouvées. Et l'expérience que j'ai eue pendant la période que j'étais dans l'institution avec les polices ou dans un hôpital ou quelconque, n'importe quel sujet, au lieu de dire, par exemple, quand j'ai tourné hôpital dans un hôpital à New York City, aux urgences, il y avait des gens qui n'ont pas aimé le film parce qu'ils ont su, même ils n'étaient jamais dans cet hôpital, que tous les médecins et infirmiers blancs, exploitent les pauvres hispaniques et les noirs. Et ce n'était pas vrai. Ils ont essayé de les aider, toujours. Et j'ai montré ça dans le film, et j'étais attaqué par les gens qui ne connaissent rien de cet endroit, mais l'idéologie les dit que ça doit être comme ça. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de présenter le film dans une façon que c'est ce que je pense de l'expérience que j'ai eue et pas tout ce que j'ai lu. Ça doit être un film sur cet endroit pendant la période que j'étais là.
Vous parliez des blancs et des noirs. C'est vrai que dans vos films, vos premiers films, ceux de la fin des années 60, on est frappé de certaines différences de classe et aussi qui sont liées aux origines ethniques. Et notamment dans Welfare, là plus tard, donc en 1975, il y a une scène où vous laissez assez longtemps tourner la caméra et où c'est un ancien combattant du Vietnam qui s'est fait apparemment agresser par un groupe de jeunes gens dont il dit qu'ils sont noirs, qui prend à partie un policier noir du centre de sécurité sociale.
Oui, monsieur Blanc est un peu ivre, et c'est vrai qu'il était attaqué, mais c'est aussi vrai qu'il dit des choses horribles envers les noirs. Et cette policier, c'est un exemple, le policier était très calme. Le policier, il n'était pas calme parce qu'on tourne. Il était intelligent, il a bien compris que le monsieur était ivre, qu'il était fâché, et un peu fou. Et finalement, ils ont éjecté ce monsieur de le centre de sécurité sociale. Mais c'est un exemple de la complexité, parce que si on parle avec les idéologues, on va dire que cette police les va frapper, cet monsieur. Son réponse était intelligente et humaine.
À partir de quel moment vous décidez de couper? Vous laissez toujours courir la scène du scandale?
Non. Parce que même dans cette scène, il y a beaucoup de coupures, parce que la scène actuelle était beaucoup plus longue. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y a un principe pour le montage. Sauf que le seul principe, c'est peut-être je fais le montage comme je veux. Et je ne montre pas le film aux autres, sauf que c'est terminé. Il n'y a presque aucune séquence d'importance d'une de mes films qui existe dans la longueur que c'était originalement. La façon que je monte, c'est lié aux événements. Par exemple, j'ai tourné un film à Belfast, Maine. C'est un film de la vie d'un village là-bas. Et il y a une séquence dans une usine où ils mettent les sardines dans leur boîte finale ou presque finale. J'ai eu 5 heures de rush de ce travail. La séquence dans le film, c'est 11 minutes. Dans cette 11 minutes, il y a 270 coups. Et la fois dans le montage, c'est de donner un sens de qu'est-ce qui se passe dans l'usine, et le travail des ouvriers, le bruit, le danger de le travail, tout ce qui se passe pour eux pendant une journée de travail et en 11 minutes. Mais par contraste, il y a cette scène de welfare que vous venez de parler avec le policier et l'homme ivre qui est attaqué. Ça, c'est long. Peut-être en, je sais pas, 12 minutes, il y a peut-être 8 coupes. Et comme ça, c'est tout à fait lié au sujet, l'action, les événements, etc., etc. Et mais la longueur de mes films, le seul principe que j'avais autour de questions de longueur de film, je crois c'est très important pour moi d'essayer d'être juste aux gens qui m'ont donné la permission. Par exemple, pour Welfare, après Welfare a été présenté, et Welfare est un film d'à peu près 3 heures. C'est à peu près c'était passé au PBS, la télévision publique en Amérique. 60 minutes m'a téléphoné. C'est un grand programme d'actualité sur l'une des grandes chaînes américaines, CBS. Il me dit, nous avons beaucoup aimé le film, nous voudrons bien présenter à 60 minutes. Mais ça, c'est très bien, mais il faut couper le film à 54 minutes. Et je les ai dit, ce n'est pas le même film. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste aux clients, ce n'est pas juste aux ouvriers, ce n'est pas juste au sujet. J'ai dit non. Et c'était la même chose avec Basic Training, que j'ai tourné pendant la guerre en Vietnam, avec CBS. Et moi, je crois que j'ai une obligation, mon principale obligation, c'est de l'endroit et aux gens qui m'ont donné la permission. Pour moi, c'est plus important que la chaîne. Parce que la chaîne, c'est simplement la bureaucratie. Il présente les films en 60 minutes, quelquefois 2 heures, quelquefois 3 heures, suivant leur intérêt. Moi, je lutte beaucoup pour présenter mes films dans la façon que je les montais.
Merci, Fred Wiseman.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Charlotte Garçon avec Frédéric Wiseman, enregistrée en 2006. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Annick Brien, réalisation Franck Lilin, Delphine Lemaire, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.